Sentons-nous fraternellement accueillis en Jésus-Christ que cette heure singulière, dans un lieu singulier avec une musique singulière pour un dimanche matin, eh bien que cette heure vous soit propice et qu'elle vous soit favorable. Muriel Dérouet a souhaité être accueillie dans l'église protestante unie de Port-Royal, quartier latin, et c'est pour nous une vraie joie de l'y recevoir aujourd'hui. Et je ne sais pas si je dois dire Dérouet ou Dérouet finalement. Ok. Merci de cette ouverture. En communion, recevons dès maintenant ce qui nous est donné en ce beau jour, la grâce, l'esprit, le pardon et la paix qui viennent de Dieu. Nous nous recueillons un instant pour demander à Dieu la bénédiction pour ce moment, pour lui demander aussi l'inspiration dans la mise en écoute des écritures bibliques de ce jour, dans l'écoute du témoignage qui va être fait aujourd'hui, dans l'écoute des moments intermédiaires de la musique, des témoignages sur la vie solidaire de la paroisse aussi, en fait, pour lui demander la ferveur aussi de chanter les chants qui vont être annoncés. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Et moi, Seigneur, j'espère en ta présence, éternel Dieu de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux et celles dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Maintenant, frères et sœurs, je vous invite à vous relever pour chanter notre premier chant, qui est le 136. On y chante toutes les strophes et on le trouve page 154 de notre recueil. 138, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais c'est sûrement vrai. 138. invite à vous rasseoir, sauf Muriel, que
j'invite à se rapprocher.
Vous avez été baptisé, Muriel, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis, vous avez fait un parcours religieux, tout à fait beau. Vous avez entendu l'Évangile, il est devenu pour vous une bonne nouvelle, une parole vivante qui, depuis longtemps, est sans doute une boussole dans vos parcours professionnels et personnels. Aujourd'hui, pour pleinement vivre votre confiance avec des frères et des sœurs, vous choisissez de devenir membre de cette église, ici à Paris, qui s'appelle Église protestante unie de Port-Royal, quartier latin. Alors Muriel, ici, et depuis un certain temps, vous êtes la bienvenue. Aujourd'hui, on le signale, on le marque. Vous êtes la bienvenue, ainsi que les vôtres qui vous accompagnent aujourd'hui. Bienvenue aussi. Voici maintenant le dialogue. Muriel, que demandez-vous ?
Je demande à être accueillie dans cette église.
Voulez-vous confesser la foi chrétienne ?
Oui, je le veux, Jésus-Christ est le Seigneur.
Cette confession de foi, ancienne, très ancienne, même primaire, je dirais, condensée, vous l'avez entendu, symbolique, est celle de toute l'Église, en tout lieu et en tout temps. Et nous allons maintenant la proclamer avec ces paroles qui vont affirmer notre commune conviction. Je vous invite à vous lever pour ce moment bref de déclaration et de confession de foi. Alors, voulez-vous confesser la foi chrétienne ? Et si vous le voulez, vous pouvez dire ensuite, oui, je le veux, Jésus-Christ est le Seigneur. Voulez-vous confesser la foi chrétienne ?
Oui, je le veux,
Jésus-Christ est le Seigneur. Eh bien, maintenant, j'invite, sauf les personnes qui ont eu envie de s'approcher, nous allons faire ce qui s'appelle l'imposition des mains pour Muriel. Et j'invite des conseillers ou autres membres réguliers de l'Église, Florence, si tu veux venir, ça ferait plaisir. Voilà, oui, je t'en prie. Voilà. Ce n'est pas réservé aux conseillers. Et je vous invite à faire ce geste. Alors, pour ceux qui viennent pour la première fois, c'est étrange, mais c'est le geste de la position des mains. Moi, je ne vais pas le faire, mais le carrier, puisque je suis pas en même temps. Notre Créateur, nous te remercions pour les témoins de Jésus-Christ que tu as placés sur la route de Muriel jusqu'à ce jour. Accorde-lui ton Saint-Esprit et fais-la grandir dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Pour nous-mêmes et pour notre Église, nous invoquons ta présence. Aide-nous à nous tenir ensemble sous l'autorité de Jésus-Christ, le seul chef de l'Église. C'est pour son nom que nous te le demandons. Amen. Vous pouvez regagner votre place. Ma sœur, nous recevons comme membre de l'Église protestante de France, en termes généraux, en fraternelle et sororale compagnie, vous êtes conviés à approfondir votre foi par la lecture de la Bible et la prière, par l'écoute et la pratique même de la prédication, par la participation à la scène. Vous êtes aussi invité à prendre part à la vie spirituelle, la vie culturelle. La vie culturelle, c'est un peu la spécificité de cette Église, et aussi évidemment matérielle de notre Église. Vous êtes encouragé à mettre au service des autres les dons et les talents que vous avez reçus. Dans votre faiblesse, qui n'est pas que la vôtre, mais qui est celle signalée par tous les réformateurs qui nous ont précédés, ils disent en somme, nous sommes là au bénéfice de la grâce, mais nous sommes faibles et nous avons besoin de l'aide de Dieu. Donc la vôtre faiblesse, qui n'est pas que la vôtre, Dieu, en tous les cas, mettra sa force. Il sera votre joie et votre paix. Êtes-vous d'accord avec ça ? C'est un oui non dévoué. Chère Assemblée, vous le voyez, nous accueillons Muriel dans notre église. Et c'est un engagement que je vous invite à écouter et donc à prendre dans votre cœur. Nous l'entourons de notre affection dès maintenant. Nous la soutiendrons par notre prière. Avec elle, nous allons participer à la mission de l'Église, mais aussi celle de l'Église protestante de France. Nous sommes appelés tout simplement à être des témoins de la bonne nouvelle, à l'Église, à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons, à lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, de génération en génération, au siècle des siècles. Amen. Alors, si vous êtes d'accord avec cette mission autour de Muriel, et si vous êtes d'accord pour l'entourer de votre affection, de la soutenir par votre prière, et attention, c'est un véritable arrangement, si vous êtes d'accord, vous pouvez dire après moi ce mot hébreu qui évoque la vérité et la solidité de votre engagement, et ce mot c'est Amen. Alors, frères et sœurs, êtes-vous d'accord?
Amen.
Eh bien, Muriel, je vais vous remercier ici, parce que vous allez dire tout à l'heure votre témoignage, mais entre-temps, il y aura un chant pour lequel, maintenant, je précise quelque chose. Pour les habitués du culte protestant quotidien, enfin, dominical, hebdomadaire, vous savez qu'il existe un moment de la liturgie qui fait se succéder la prière de conversion, l'annonce du pardon et l'annonce de la volonté de Dieu. Il se trouve que l'annonce du pardon a été faite en tout début de ce culte. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti. Mais tout ce qui l'entoure pourra résonner dans le chant en forme de prière qui va suivre. Et je vous invite, tout en restant assis, à chanter le 36-12, toutes les strophes, page 509.
Je vous invite
à la prière. Seigneur, viens bénir cette lecture et la prédication. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Inspire ton Église afin qu'elle le partage. Dans la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 14, du verset 1er au verset 19, recherchez la charité. On peut aussi dire rechercher l'amour. Aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous. Si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc ? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue.
Il fallait caractériser Paul, l'auteur des lettres les plus connues et les plus commentées du Nouveau Testament, on convoquerait de nombreuses catégories, évidemment déjà celle de l'apôtre. Paul lui-même s'en revendique, même si par ailleurs il se traite lui-même d'avorton. Donc c'est pas tout à fait dans la gloire qu'il se revendique comme un apôtre. Il a ensuite, bien sûr, été considéré comme un théologien, ce qui saute aux yeux. Plus récemment, comme un écrivain, un styliste, un rhétoricien, celui qui pratique la rhétorique, l'art du discours. Encore plus récemment, comme un philosophe. Il a été considéré comme tel par d'autres philosophes, comme Alain Badiou ou comme un certain Giorgio Agamben, vous trouverez les références sur le texte de la prédication qui sera publié sur le site. Mais ce qui est peu remarqué, au-delà du fait que généralement la théologie de Paul soit considérée comme héritière de la philosophie de Platon, ce qui a été peu remarqué, bon, de toute façon, il n'était pas le seul à être un héritier de Platon. Vous l'êtes tous, nous le sommes à peu près tous, à partir du moment où nous croyons avoir un idéal, par exemple. Bref. Ce qui a peu été remarqué, de façon systématique, c'est que c'est aussi un moraliste. Alors, pas un moralisateur, bien que Paul fait beaucoup de diatribes de type moralisatrice, mais c'est pas l'essentiel de son discours. Comme un moraliste, au sens noble du terme, et aussi dans le sens pratique et universel. Et cette prédication, à partir du texte du jour qui a été lu par Nicolas, va tendre simplement à le montrer. Et je vais essayer, pour faire ça, pour le montrer, pour montrer ce que dit Paul, ce que fait Paul, je vais essayer de ne pas parler en langue, bien que j'ai déjà commencé. Et à ce moment-là, vous sentez déjà en plus qu'il faut tout de même en dire quelque chose de ce que c'est que le parler en langue, le parler en langue. Expression dont les mots sont certes compréhensibles. Parler, langue, ça va? Mais une expression qui peut rester bien étrange à beaucoup. Qu'est-ce que ça a à voir avec notre modernité, avec nos pratiques, nos habitudes? Et je pourrais même aller jusqu'à avec Muriel aujourd'hui. Alors ce phénomène a un nom scientifique. Ça s'appelle, vous le savez, pour la plupart je pense, mais il faut quand même le préciser, ça s'appelle la glossolalie, du grec glosso, langue, on va dire, pour résumer, et lalie, qui vient du grec parler, glossolalie. Vous voyez déjà que si je m'étais contenté de dire glossolalie, je serais resté dans une forme de parler en langue. C'est-à-dire je me serais édifié moi-même et vous pas. Ah, vous ne connaissez pas l'étymologie. Vous ne connaissez pas le mot glossaire. Et Sainte-Eulalie, vous ne la connaissez pas, Eulalie. Oh, mais faites du grec, mon pauvre ami. Je ne suis ni pauvre, ni vôtre, ni votre ami. Ai-je répondu un jour à quelqu'un qui tentait de me prendre de haut, à juste titre, vu ma taille. La glossolalie, le parler en langue, est un phénomène où une personne parle dans une langue inconnue d'elle-même. Souvent, lors d'une expérience religieuse ou spirituelle, personnelle, mais plus souvent au milieu d'une assemblée. La glossolalie, le parler en langue, est particulièrement associée au protestantisme, au christianisme déjà, mais notamment au protestantisme, dans ses mouvements pentecôtistes et charismatiques. Dans le Nouveau Testament, à chaque Pentecôte ou presque, on lit au livre des Apôtres une histoire qui décrit comment les disciples de Jésus ont commencé à parler en langue lors de la Pentecôte, sous ce qu'on appelle l'effusion de l'Esprit. Et ça ne nous choque pas de lire ça. Alors, rien que pour les pentecôtistes, qui sont donc des protestants, ça fait déjà environ 300 millions de personnes dans le monde qui pratiquent ou admettent ce phénomène. Les protestants dans le monde sont 800 millions. Ça fait déjà une bonne dose de protestants qui, chaque dimanche, parlent en langue quand même. Vos frères et sœurs pour les protestants. Et en France, les pentecôtistes sont désormais plus nombreux que les réformés ou luthériens que nous sommes. Et quand je dis ces chiffres, je ne parle pas de tous les adeptes de ce type de pratique. En dehors du protestantisme, par exemple dans le mouvement charismatique catholique, il y a aussi des moments de parler en langue. Et je ne parle même pas de cette pratique en dehors du christianisme, lors de rituels qu'on pourrait appeler chamaniques, qui inclut des formes de langage extatique. Ce phénomène est souvent perçu par ces adeptes chrétiens comme une manifestation de l'Esprit-Saint. Je serais curieux de savoir, après le culte, ce que vous en pensez. Les personnes qui parlent en langue disent souvent qu'elles ne contrôlent pas consciemment les mots qui sortent de leur bouche. Il y a des psychologues qui se sont intéressés à la question, des sociologues qui ont étudié la glossolalie. On parle de transe, on parle parfois de dissociation mentale. D'autres voient ça plus simplement comme un moyen d'expression émotionnelle, intense quand même, une expérience communautaire qui permet de créer du lien social dans l'Église. Évidemment, d'autres vraiment sceptiques considèrent qu'il s'agit là d'une forme d'autosuggestion, voire d'auto-hypnose. On parle de neurobiologie, neurolinguistique. En fait, on ne sait pas trop ce que c'est, si c'est volontaire ou pas, et ce que ça signifie socialement, individuellement. Alors, pour l'avoir connu, moi-même, au travers de diverses enquêtes personnelles, mais aussi universitaires, petit degré, c'était en licence, des petites dissertations que j'ai faites sur le mouvement pentecôtiste, je peux dire aussi que ce phénomène du parler en langue est un moyen thérapeutique pour évacuer du stress. En particulier le stress social, car je rappelle que ces pentecôtistes que j'évoquais tout à l'heure sont majoritairement issus de classes populaires, voire défavorisées. Et dans d'autres milieux que français, c'est encore plus évident. J'ai remarqué par ailleurs que selon le niveau culturel, les langues inconnues, parce que j'ai vraiment écouté, sont d'apparence plus ou moins complexes, selon le niveau d'études présumé de la personne. J'ai repéré aussi à l'écoute des structures, des déclinaisons, des intonations, des rythmes, des progressions, des formes d'éloquence, voire des ressemblances avec plusieurs langues existantes mêlées, des langues parfaitement inconnues des locuteurs ou locutrices en train de prier à haute voix en langue. Et pour tout dire, j'ai souvent entendu aussi ce qui pouvait être apparenté à de la pure simulation. Mais par ailleurs, encore une fois, pour faire passer une sorte d'ascenseur émotionnel, j'ai aussi entendu de magnifiques chants en langue, inspirés et très complexes. Je ne peux pas dire autre chose que ça, parce que je n'étais qu'en position d'observateur, attentif. Des chants chantés brusquement par des personnes sans aucune espèce, qui n'avaient aucune espèce de culture musicale académique, ni de culture du chant. Et même qui ne chantaient pas, habituellement, sauf des chants, des cantiques, un peu comme ça. J'en suis venu à la conclusion, évidemment provisoire, qu'il s'agit là d'un phénomène naturel et biologique, voire archaïque, et qui est, je pense, accessible à chacun. Ce qui n'empêche pas, à mon sens, d'y voir aussi une pratique spirituelle, respectable. Selon le Nouveau Testament, le parler en langue fait partie de ce que le Nouveau Testament appelle les dons spirituels. Mais Paul critique l'abus de cette pratique au sein de cette église de Corinthe. Et la façon dont il le fait nous renforce dans l'idée que Paul est un moraliste, pratique, universel, qui peut nous parler aujourd'hui. Parler en langue, c'est bien, mais délivrer une interprétation, c'est mieux. C'est-à-dire aller vers les autres, c'est mieux. Parler en langue, ça nous fait du bien en nous, mais les autres qui n'y comprennent rien, on en fait quoi? Et la conclusion de Paul est fracassante. Il plie le jeu en disant « Dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence que 10 000 paroles en langue. » En quoi ça nous concerne? Je suppose que personne d'entre nous, mais je ne sais pas tout, est peu personnellement concerné par cette pratique. Et qu'en plus, les églises calvinistes ou luthériennes ne l'ont jamais intégré dans leur culte. Alors pourquoi, à votre avis? Ça aussi, ça va être un sujet de discussion. Mais j'ai mis ma petite idée. Le parler en langue, c'est devenu un marqueur de classe dont les réformés et les luthériens, rapidement devenus ou se considérant comme une élite au cours de l'histoire, n'ont pas voulu associer. C'est une hypothèse, de même que toute forme de débordement, ferveur intense, danse et j'en passe. Ce qui a conduit parfois à des scissions d'église. Alors sans parler d'extase ou de transe, nous tous nous parlons en langue. C'est-à-dire que tous et toutes nous usons de codes qui excluent. Sans forcément le savoir, tout en étant parfaitement innocent. Alors certes, le plus souvent, nous ne le faisons pas seuls. Quoique chacun a été confronté à quelqu'un qui se plante devant lui et qui lui délivre un soliloque, sans jamais s'intéresser à nous. Revenons à nous. Je prends un exemple. Dans mon jeune temps, c'est-à-dire au tout premier moment de mon voyage personnel, que j'appellerais de transfuge de classe, je me suis retrouvé dans une soirée où tous les gens, plus vieux que moi, parlaient entre eux de livres qu'ils venaient de relire. Non pas de lire, mais de relire. Et que moi, en fait, je n'avais pas lu une seule fois. Et dont souvent même, je ne connaissais pas les auteurs. Encore. Je me suis senti parfaitement exclu. J'ai tout de même noté que les personnes qui parlaient de leur relecture, sans jamais dire quoi que ce soit du contenu des œuvres et aussi de l'émotion primaire de leur première découverte de cet auteur ou de ce livre. Jamais. C'est la relecture. À ce moment-là, je me suis vraiment imaginé que j'étais le seul à ne rien comprendre. Sans doute à tort, mais je n'avais pas les codes pour répliquer, m'intégrer ou pour prouver le subterfuge collectif. Pour éviter de passer pour un abruti, je me taisais. Une surdité sociale intense provoquant un mutisme de fait. Bref, j'étais dans une soirée où des gens parlaient en langue, où personne n'a dit au moins 5 paroles contenant l'intelligence de l'autre, pour l'autre, pour moi, le jeune aspirant au transfuge de classe que j'étais, découvrant la culture mondaine par l'exclusion immédiate et donc apprenant tous ces codes qui m'étaient inconnus. L'Église réformée a souvent critiqué son propre comportement exclusif, excluant, en parlant de l'usage abusif qu'elle faisait de ce qu'elle appelait son patois de Canaan. Quand je vous dis patois de Canaan, ça vous fait quoi comme effet? L'Église réformée critique elle-même, en parlant de patois de Canaan, alors que l'expression patois de Canaan est du patois de Canaan. Personne ne sait peut-être ce que ça veut dire patois, d'accord, mais Canaan, on ne comprend pas. Canaan, c'est une région qui a été soi-disant conquise par les Hébreux dans le plus célèbre texte mythologique de la Bible, en fait. Donc voilà, encore une fois, ça exclut des personnes, on n'en sort pas. Et les gens que critique Paul, même s'ils produisent du son, parlent pour eux-mêmes intérieurement. Et chez nous, les protestants, parfois, ont fait de même, mais à plusieurs. Vous voyez comme le problème est dur, parce que des protestants s'apercevant du problème d'exclusion ont inventé le principe de ce qu'ils appellent maintenant les fraîches expressions. Mais, encore une fois, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Et en plus, c'est de l'anglais. Donc, il faut encore avancer. Mais il y a des exemples encore plus massifs. Avant le XVIe siècle, c'était la traduction latine de la Bible qui dominait. Le grec était connu au temps du Nouveau Testament, on le parlait, en particulier ceux qui pratiquaient le commerce. L'hébreu, c'était différent, puisque c'était une langue à peu près morte, mais dans les siècles qui suivirent, ni le latin, ni le grec, ni l'hébreu, évidemment, n'étaient connus de la très grande majorité de la population chrétienne. Seuls les savants connaissaient ces langues, donc pour le peuple, toute la langue de l'Église, celle des prêtres, des sermons, c'était du parler en langue. Et le mode de transmission était basé sur « faites-moi confiance ». Et point. La réforme au XVIe siècle a fait basculer tout ça. Luther a traduit la Bible en allemand. Pierre Robert, dit Olivetan, l'a traduite en français. Et les deux ont inventé l'allemand, on dit, et le français. Mais ils ont surtout donné au peuple la possibilité non seulement de comprendre, mais aussi d'interpréter. Ça a tout changé. On est passé du parler ésotérique, qu'il soit biblique, liturgique, chanté, à la possibilité de l'intelligibilité. Regardez vous-même dans quelle masse d'inintelligibilité vous êtes, environné par tous les médias qui vous parlent. Et ensuite, revenez vers ce texte de Paul. Le brouhaha du parler en langue est immense actuellement. Muriel est arrivé devant vous avec tout son parcours. Elle a choisi de devenir protestante, ou peut-être de se révéler elle-même qu'elle l'était depuis longtemps, qui sait, peut-être, ce sont des hypothèses lancées comme ça un peu. Mais peut-être aussi, et je crois qu'elle l'a dit elle-même, pour ne plus être confrontée au problème de l'inintelligibilité. Toutes ces injonctions paradoxales, qui sont une forme de brouhaha en fait. L'inintelligibilité des normes auxquelles elle a été confrontée. Se parler en langue auxquelles le commun des mortels n'est censé pas avoir accès. Aujourd'hui, elle s'est présentée devant vous avec une parole très claire. Elle a fait comme Paul, qui préfère parler clairement plutôt que dire 10 000 paroles en langue. Elle s'est présentée devant vous, non pas pour elle, mais elle s'est présentée pour notre édification commune. Elle a témoigné sans rester dans son patois personnel, que je ne connais pas, hein, c'est tout le monde en a un en fait, hein, c'est pas une critique, mais qu'on doit préférer mettre en sourdine ce patois, au nom de la nécessité de témoigner devant. C'est ce que veut dire protester et être protestant. Nécessité à laquelle sont confrontées toutes celles et tous ceux qui se revendiquent de la voie ouverte par le Christ, pour simplement parler aux autres, pour simplement témoigner de sa foi, protester pour la justice et prophétiser, qui est le meilleur des dons spirituels. prophétiser les conditions d'un meilleur avenir que celui annoncé par le brouhaha collectif et inintelligible. Ce n'est pas compliqué. Témoigner, ce n'est pas dire à haute voix une espèce de soliloque intérieur, c'est préférer l'intelligence pour l'édification de tout un chacun et chacune. Merci Muriel, bienvenue et amen.
Thank you.